Radio. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Il est 19h04 et vous êtes sur la matinale sur Radio Campus Paris. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h et en direct. Alors, hier, les épreuves du bac ont débuté et elles ont commencé comme le veut la tradition, avec la matière que certains redoutent et que d'autres, comme moi, chérissent. La philosophie. À la philo. Cette parenthèse où, pour une fois, on demande aux élèves non pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils pensent. Où on ne leur demande pas de réciter, mais de réfléchir. Où l'on ne cherche pas la bonne réponse, mais une pensée structurée, argumentée, incarnée. Bref, un moment rare dans une scolarité souvent dominée par les certitudes. Et les sujets de cette année étaient à la hauteur. Pour les bacs généraux, les candidats avaient le choix entre deux dissertations et un commentaire de texte. Première proposition, notre avenir dépend-il de la technique ? Une question éminemment contemporaine à l'heure où l'intelligence artificielle, les biotechnologies et même les réseaux sociaux façonnent déjà nos vies. Et peut-être notre humanité. Deuxième sujet, la vérité est-elle toujours convaincante ? Une question philosophique, mais aussi politique, médiatique, existentielle. Car qui n'a jamais eu à choisir entre une vérité qui dérange et un mensonge qui rassure ? Enfin, le commentaire de texte porté sur un extrait de John Rawls, grand penseur de la justice et de l'équité, de quoi faire travailler aussi bien l'intellect que la conscience. Pour les bacs techno, les sujets étaient tout aussi stimulants. Sommes-nous libres en toutes circonstances ? Ou encore, avons-nous besoin d'art ? Deux questions profondes pour des élèves souvent injustement sous-estimés. Et un texte d'Adam Smith à commenter, loin des idées reçues sur ce philosophe économiste. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est qu'hier, des milliers de jeunes ont pris leur stylo pour réfléchir, interroger le monde, se confronter à l'incertitude, à la complexité et à eux-mêmes. Et rien que pour ça, cette épreuve mériterait de durer toute l'année. Alors, à tous les candidats, bravo. Et à ceux qui croient encore que la philo ne sert à rien, je vous invite à méditer cette phrase de Camus, et toujours d'actualité d'ailleurs, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Bonne chance pour la suite du bac. Au sommaire de cette matinale, à l'interview, nous aurons donc Éléonore et nous accueillerons Baptiste Nico, avocat au barreau de Paris, maître de conférences en droit privé et directeur du Master 2 droit pénal international et européen à l'Université de Limoges. Et comme sujet, la victimisation secondaire. En flash info, toujours Éléonore, analyse pour la chronique actuelle et nous parlerons gaspillage des fraises pour le Zoom. Je suis ravie de le partager d'ailleurs avec Marius, en présence de Mathieu Chanu, directeur du prix photo pour le prix solidaire. Et enfin, Fabien à la chronique libre qui nous parlera des super événements. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, l'interview de Éléonore et nous accueillons donc Maître Baptiste Nico. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Bonsoir Éléonore.
Bonsoir Francesca. Bonsoir Maître. Comme on vient de le dire, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université de Limoges et avocat au barreau de Paris. Et vous avez surtout récemment publié un article qui s'appelle « Vers une consécration de la victimisation secondaire devant le juge national ». C'est disponible sur le site Au Club des juristes, qui est un cercle de réflexion autour des questions juridiques. Pour parler de cette notion qu'on a entendue en avril dernier, quand la CEDH, pour ceux qui nous écoutent, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa réponse judiciaire au viol sur mineur, a condamné la France pour victimisation secondaire. Et plus récemment, en mai, dans l'affaire Depardieu, qui s'est vue condamnée du même fait et doit donc verser une somme aux plaignantes à titre de réparation. Tout d'abord, dans quel cas on peut parler de victimisation secondaire ? Et ensuite, pourquoi cette notion met en cause à la fois la partie civile et la responsabilité institutionnelle ? Est-ce que ces deux champs peuvent aller de pair ?
Alors je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Pour la première, effectivement, question, qu'est-ce que la victimisation secondaire ? c'est quelque chose qui est pour l'instant peut-être assez flou, qui n'est pas encore totalement découvert. Mais si on devait le résumer, c'est une maltraitance procédurale. Dans le cadre du procès pénal, c'est une notion qui finalement est assez ancienne, qui a déjà plus de 20 ans, mais qui a vraiment éclos ces dernières années, notamment en raison de nombreux textes internationaux sur les violences faites aux femmes, parce que il est indiqué, d'ailleurs dans ces textes, et il est constaté, que les femmes sont plus largement victimes de violences de genre et qu'elles sont les plus à même de subir cette victimisation secondaire. La victimisation secondaire, elle se rapporte en premier lieu à une victimisation primaire, le sentiment d'être une victime d'une infraction pénale, à savoir, j'allais dire, cette atteinte à l'intégrité qui naît directement d'une infraction, d'une potentielle infraction pénale. Et la victimisation secondaire, eh bien, c'est ce nouveau préjudice, ce nouveau trauma pour cette personne à raison de la procédure, à savoir comment la procédure est conduite, comment elle est menée. Et donc, la victimisation secondaire, elle peut arriver dans différents éléments de la procédure. Dès le dépôt de la plainte, en fonction de la réaction des agents qui vont prendre la plainte, en fonction de comment va se dérouler l'enquête. Dans le cadre de l'audience, notamment avec les propos de l'avocat, et le fait que le président de la juridiction laisse faire ses propos qui peuvent être humiliants, ou encore même, et parce qu'on a le cas dans le cas de l'arrêt de la CEDH, sur la motivation du juge qui fait part dans sa motivation de biais sexiste. Voilà.
Justement, sur ce droit et cette indemnité qu'on peut appeler indemnité de robe, qui ne touche pas seulement à l'avocat, mais qui incombe aussi au magistrat, de porter un jugement qui pourrait être donc sensiblement différent selon le juge qui le porte. Si on reste dans la définition de victimisation secondaire, vous venez d'évoquer le fait que cette infraction peut arriver à plusieurs moments de la dite procédure. Donc elle peut arriver au moment où la défense va, par exemple, commettre une attaque offensive vis-à-vis des plaignantes. Elle peut aussi arriver au moment, vous le dites très bien dans votre article, où on va reformuler et donc réinvoquer le traumatisme qui a été subi. Et donc de poser gratuitement des actes qui sont non nécessaires pour délibérer et pour aboutir à un jugement. Comment c'est donc possible, si ça ne relève pas d'un acte pénal, mais plutôt d'une dégradation d'un système qu'on aurait mal mené, comment on arrive à la conclusion que la partie de la défense, et donc par exemple Gérard Depardieu en tant qu'individu, puisse lui-même être condamné?
Alors, justement, sur ce point-là, effectivement, ça peut arriver à différents moments. Et effectivement, on peut prendre différents exemples et on peut dire que ça vient de différents acteurs. Ça peut venir d'un officier de police judiciaire, d'un juge d'instruction, d'un magistrat, dans la façon dont il conduit l'audience, et ici des propos de l'avocat. Sauf que, et à mon sens, c'est vraiment le point, et d'ailleurs qui fait débat et qui a fait que, fort heureusement, en tant qu'avocat, on s'empare enfin de la notion pour la discuter par rapport à la liberté de la défense que l'on a, c'est que telle que la victimisation secondaire est faite actuellement, il y a, à mon sens, dans cette affaire, un problème dans le fait d'avoir directement mis à la charge de Gérard Depardieu les conséquences de cette victimisation secondaire. Parce que si on reprend, j'allais dire, les différentes affaires qu'a pu mener la CEDH en la matière, la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle le fait depuis 2015. Elle vient dire que, en premier lieu, c'est une responsabilité de l'État, parce qu'il a été défaillant dans sa justice. C'est habituellement ce qu'on appelle une action responsabilité pour défaillance du système judiciaire. La victimisation secondaire, la notion telle qu'elle est interprétée, elle permet, dans l'absolu aussi, de potentiellement condamner les actes d'autrui. Donc pas forcément la justice en elle-même, mais pourquoi pas l'avocat. Sauf que dans le système dans lequel la notion est présentée, on a un problème dans cette affaire parce que le magistrat vient dire qu'il y a une victimisation dans la procédure pour les propos tenus par l'avocat, donc je le mets à la charge de Gérard Depardieu, sans faire sa propre autocritique de ce qu'il doit faire, à savoir la police de l'audience, et donc de mener les débats et d'éviter la victimisation secondaire. Et pour vous dire, on a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est très clair sur ce point, où on est venu reconnaître la victimisation secondaire, parce que face aux différentes attaques humiliantes menées par la défense, le magistrat n'a pas réagi et n'a pas fait cesser le trouble. Et au contraire, parfois, elle ne l'a pas reconnu, parce que face à une défense offensive, le magistrat a essayé de limiter les propos, a recadré les choses, il a mis des suspensions de séance, donc on a arrêté les débats pour que la victime puisse un peu reprendre ses esprits. Et donc là, effectivement, j'allais dire, de but en blanc, le magistrat a tout reporté sur Gérard Depardieu sans avoir analysé sa propre façon d'avoir mené le procès. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans cette affaire, il était nécessaire d'avoir cette analyse de comment le procès a été mené pour savoir à qui revient, j'allais dire, la responsabilité, et parce que, à mon sens, elle revient principalement à l'État dans sa façon de mener la justice.
Justement, peut-être une précision pour ceux qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on condamne pour victimisation secondaire, a fortiori en France, parce qu'on retrouve bon nombre de procès, et particulièrement autour des VSS, où la CDEH ou le tribunal de Paris juge qu'il y a un caractère de victimisation secondaire. Pour autant, cette caractéristique ne suffit pas à condamner. Et là, on est face à ce que vous expliquez dans l'affaire Depardieu, à une caractérisation, une médiatisation qui peut aussi jouer sur cette balance et une condamnation. On en vient donc à ma prochaine question que vous avez un peu anticipée. Comment cette même cour peut mener de concert le rôle de juge et partie ? Vous parliez de faire sa propre analyse. En condamnant des actes et des paroles, a posteriori, qu'elle aurait pu faire en tenant compte de sa police d'audience et de prévenir des paroles qui seraient jugées inutiles au jugement et pénalement répréhensibles.
Eh bien, c'est en fait toute la difficulté du fait que, pour l'instant en France, on n'avait pas, comme on dit, réceptionné la notion. Et donc, que l'on n'avait pas forcément réfléchi à savoir mais comment on pouvait effectivement la caractériser et justement permettre la réparation. Pour autant, en fait, on a déjà des bases en droit parce qu'il existait, j'allais dire, de la victimisation secondaire sans qu'on le sache, ou en tout cas sans qu'on le nomme comme ça. Parce qu'en droit, on a eu une action particulière qui est justement cette action aux responsabilités de l'État pour la défaillance du système judiciaire. C'est-à-dire que quand une affaire s'est mal passée, on va revenir devant le tribunal par le biais effectivement d'une procédure spécifique pour demander à engager la responsabilité de l'État et demander réparation du préjudice, c'est-à-dire après ce procès. C'est quelque chose qui se fait très régulièrement et que l'on connaît particulièrement pour ce que l'on appelle le délai déraisonnable en matière de justice, c'est-à-dire que quand un procès était trop long, on intente une action en responsabilité de l'État pour dire que le délai a été trop long. Et cette question de délai déraisonnable, de procédures qui mettent trop de temps, ben finalement c'était déjà de la victimisation secondaire. Et on le voit parce qu'il y en a beaucoup d'affaires et j'en ai déjà eu dans ce cas-là. Une personne qui porte plainte pour viol, pour agression sexuelle, qui a une procédure qui n'avance pas pendant 3, 5, 7 ans et qui reste dans l'incertitude de cette procédure pendant 7 ans, c'est de la victimisation secondaire. Sauf qu'effectivement, on l'appréhendait sous la question juste du temps. Et finalement, cette victimisation secondaire, c'est une notion spécifique sur la responsabilité de l'État. Et c'est là qu'est peut-être la difficulté, c'est-à-dire que là, le tribunal l'a, à mon sens, bien caractérisé, mais n'a pas recherché effectivement j'allais dire peut-être le bon responsable, mais la solution en droit, et c'est quelque chose que souvent les justiciables ne comprennent pas forcément, et je comprends cette sensation, c'est qu'il faudrait leur dire « Eh bien, vous en avez été victime, venez avec moi, on va refaire une procédure. » Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont eu cette mauvaise expérience de la justice, cette maltraitance procédurale, n'ont plus confiance pour aller mener cette procédure. Même si, effectivement, quand on la réalise et qu'il y a vraiment des éléments caractéristiques, la procédure fonctionne.
Donc, si je suis votre discours, pour résumer brièvement, la victimisation secondaire, on peut la concevoir comme une conséquence d'une violence, entre autres et surtout de genre, qui est institutionnelle et qui s'exerce dans toutes les phases du procès, de la délibération et de la réception de la plainte, et qui se manifeste aussi de façon invisible.
Alors, je vais vous couper, excusez-moi. Vous répondrez à la question après, tu pourras la reposer, Léonore. On va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Et on va écouter Wolfpack avec le titre « In Real Life ». C'était In Real Life de Wolfpack et on retrouve tout de suite l'interview avec Éléonore et Maître Baptiste Nico. Restez avec nous, il est 19h22.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Nous étions en train de parler de la victimisation secondaire dans son cadre juridique et des possibilités de prévenir de sa venue en échappant aux manquements institutionnels qui sont exécutés tout au cours de la procédure judiciaire. On en vient à la question qui a été coupée et ça m'a donné envie peut-être de rebondir sur une autre. Vous évoquiez justement le fait qu'il incombe à Gérard Depardieu presque sur seule ses épaules le poids du manquement presque, enfin, professionnel qu'a eu son avocat, et donc d'être presque condamné seul, comme s'il ne faisait plus qu'un. Qu'est-ce qui peut advenir pour l'avocat à partir du moment où il a mené cette défense, où il a tenu des propos outranciers et qui ont porté, je cite le tribunal, atteinte à la dignité des plaignantes? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cet avocat n'est pas destitué, mis à pied par un conseil de l'ordre, ou par exemple assigné sur une formation justement sur ces questions autour des VSS?
Alors, effectivement, c'est une question qui peut amener à beaucoup de développement, donc n'hésitez pas à me couper, effectivement, si je suis long. Pourquoi il n'est pas potentiellement sanctionné par l'ordre? Bah, j'ai envie de dire que c'est à l'ordre d'y répondre. C'est à l'ordre d'y répondre, de savoir si, en fonction de ces éléments, il estime, parce que il en a inévitablement connaissance, hein, compte tenu de la médiatisation et des discussions, s'il estime qu'une procédure est nécessaire et qu'une sanction soit nécessaire. Tout en sachant que je ne vais pas me faire défenseur de l'ordre spécifiquement, mais souvent on a beaucoup de questions sur « Ah, mais que fait notre ordre? Que font les ordres ?» Ils font beaucoup de choses sans qu'on ne le voit. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils lancent une procédure où il se passe quelque chose, on n'est pas forcément informé. On n'est pas au courant et ils ne vont pas le crier sous les toits, surtout les toits. Donc, les ordres, effectivement, peuvent effectivement le faire en matière donc disciplinaire s'ils estiment que, disciplinairement, il a outrepassé le cadre de notre déontologie. Ça, c'est le premier élément. Et puis, alors, c'est vrai que la question était un peu longue, mais pourquoi, effectivement, il n'a pas spécifiquement de formation là-dessus? Alors, en tant qu'avocat, on peut accéder à toutes les formations que l'on veut. On n'a pas d'obligation spécifique d'avoir une formation dans tel ou tel point.
Oui. Pour rediriger et vous aider, peut-être c'était un petit peu vague, le fait qu'il soit condamné pourrait donc impliquer de fait le fait qu'il suive un stage, en fait, qui soit obligatoire, tout comme on peut le faire dans le cadre d'une plainte, par exemple pour viol, où on suit un parcours psychologique qui n'a pas été demandé, qui est obligatoire. Est-ce que ça ne relève plus de l'indemnité de la robe? Est-ce que l'avocat peut se placer au-dessus?
Alors, je sais pas si c'est une sanction que l'ordre pourrait fournir, effectivement, cette obligation. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse avoir cette obligation. Et vous savez, même en matière pénale, quand il y a une obligation de stage, c'est on vous oblige à faire un stage, et si vous ne voulez pas le faire, vous aurez une amende à la place. Et c'est là que c'est assez particulier, c'est là qu'il y a effectivement peut-être un problème dans cette affaire. C'est que lui, finalement, dans l'affaire dite Depardieu, l'avocat, il n'est condamné à rien. Il n'est condamné à rien. C'est Gérard Depardieu lui-même qui doit payer pour les propos de son avocat. Pour les propos de son avocat qui ont créé une victimisation secondaire. Alors, soit malgré toutes les précautions qu'a pris le président, et malheureusement le président d'audience a tout fait, mais ils sont encore intervenus, et là, effectivement, on peut se poser la question d'aller rechercher la sanction de l'avocat. Soit il les a tenus parce que le président n'a pas suffisamment tenu l'audience et lui, il en est responsable. Parce que, et là, c'est un petit point particulier, c'est que les premiers textes sur la question de la victimisation secondaire, ils ne sont pas là pour condamner la victimisation secondaire et apporter une indemnisation. C'est pour faire en sorte que les États, dans le cadre de leur justice, préviennent la victimisation secondaire. Ça, c'est une obligation, par contre, de formation des magistrats. C'est des règles de conduite pour l'éviter. Et notamment pour les présidents de juridiction.
Justement, est-ce que quand elle prévient en caractérisant et en condamnant un acte qui relève aussi de sa compétence? Est-ce qu'en affirmant que Depardieu est condamné, elle reconnaît qu'elle a participé au fait qu'il puisse franchir cette limite? Du moins, on ne parle pas de conscience délibérée, mais est-ce qu'elle reconnaît qu'elle a manqué à son devoir juridique de protection des victimes? Et est-ce que, si c'est délibéré, sa vocation à ouvrir la parole, justement, sur ce traitement judiciaire?
Oui, en fait, elle reconnaît donc la juridiction. En fait, la juridiction, c'est là que c'est un peu particulier, effectivement. C'est-à-dire que, oui, en allant condamner directement Gérard Depardieu parce qu'il s'est passé ça, c'est dans l'absolu bien démontré que, elle n'a pas pu l'éviter. La question, c'est dans quelle mesure elle en est responsable. Non, faut faire une analyse un petit peu plus pointue du procès. C'est ce qui est vraiment fait dans l'absolu quand on cherche la victimisation secondaire. Mais effectivement, dans l'absolu, ça peut être considéré comme un aveu de responsabilité. Mais en fait, ça pose aussi une vraie question sur... On entend beaucoup parler des limites des droits de la défense des avocats, mais ça pose aussi la question de la justice que l'on veut. Est-ce que, justement, un magistrat est plus là pour laisser faire, aller chercher la défense et la recherche de la vérité dans tous ses aspects, quitte à aller dans l'excès et quitte à en être responsable derrière et devoir indemniser la victime à raison du trauma qu'elle a eu du fait de la procédure, ou est-ce qu'il est là pour justement limiter toutes ces potentielles atteintes à la victime, et ça fait partie vraiment d'un de ses rôles essentiels. Là, je pense que, et c'est pour ça qu'il y a besoin maintenant qu'il y ait eu cette affaire de vraiment réfléchir et que tous les acteurs s'en emparent, parce que c'est toujours une question d'équilibre. Vous voyez, dans des affaires, on est venu reconnaître la victimisation secondaire parce qu'il y a eu des expertises médicales, en tout cas des atteintes à l'intégrité de la victime, parce que on a fait beaucoup de recherches sur elle. Il y a eu
recherches non justifiées pour
voilà. C'est-à-dire que quand on fait un examen médical de la victime à 10 reprises à 4 mois d'intervalle dans une procédure pour savoir si elle a vraiment été violée.
C'est très lourd.
C'est très lourd et ça n'a aucun intérêt.
Si je puis me permettre, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus sous d'autres aspects. En reconnaissant aussi de fait ces manquements, comment c'est possible qu'on ne trouve pas la notion de victimisation secondaire dans le droit français? Si elle est défendue, enfin, est reconnue par la Cour européenne, si ça fait presque 10 ans que c'est le cas, même si en application c'est moins d'une décennie, comment on peut expliquer ça? Et peut-être plus court, si on ne veut pas changer le droit, et ce qui est aussi le cas et qui n'est pas forcément obligé, on peut mettre en place des choses. Par exemple, la CIVIS, la commission qui lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, a fait 80 recommandations au niveau juridique pour réduire cette double peine et la notion de victimisation secondaire, en proposant par exemple la visioconférence pour limiter les confrontations, en limitant la maltraitance qu'on appelle de prétoire, et donc de limiter les propos injurieux à leurs racines en respectant des règles déontologiques pour ne pas que la défense de l'avocat devienne un procès en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sans changer le droit français maintenant?
Alors, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, le droit français, effectivement, on ne retrouve pas forcément la victimisation secondaire. Alors, on la retrouve en réalité, si on fait vraiment des recherches, notamment dans les circulaires qui vont avoir des recommandations, justement, en termes de prévention, etc. Mais pour ce qui est de la condamnation pour victimisation secondaire, on ne l'a pas dans le droit français. Mais parce que je pense que on peut très bien utiliser cette notion sans l'intégrer explicitement dans le droit français, du fait qu'on a une action en responsabilité de l'État pour faute, c'est une faute qu'on appelle la victimisation secondaire. On pourrait très bien le rajouter dans l'article et dire, ben, ça comprend la victimisation secondaire, on peut très bien l'utiliser sans la mettre explicitement. Et sur les recommandations, oui, ben, en fait, c'est qu'il y a tout à faire en termes de formation des magistrats, en termes de façon de mener le procès, de voir comment les ordres vont réagir sur les questions déontologiques des avocats. Parce que là, on a bien compris, hein, l'ordre doit s'en emparer, sinon le magistrat le fera à notre place. Donc clairement, il faut que les ordres s'en emparent aussi, de savoir effectivement dans quelle mesure cette notion peut nous impacter. Et pour ce qui est effectivement des magistrats, c'est de la formation. Je finirai juste sur ce point-là. Si on lit l'arrêt de la CEDH d'avril 2025 permet la condamnation pour victimisation secondaire, c'est qu'il y a du travail sur le long terme, sur la formation, sur des biais sexistes à éliminer. Si je vous prends le cas effectivement d'une fille de 14 ans fragile où des pompiers interviennent régulièrement chez elle, un pompier finit par coucher avec cette fille et le magistrat vient dire « mais le pompier est une personne qui a du succès avec la gente féminine, qui crée des comportements débridés à son égard et donc forcément, il n'a pas finalement la connaissance du nom, n'a pas l'habitude de lui résister, donc c'est exonératoire de responsabilité. » Parce que c'est un pompier.
Discrimination en raison du genre.
Oui, tout à fait.
Alors, ça va être la fin de cette interview. En tout cas, merci beaucoup, maître, de nous avoir éclairé grâce à votre article, mais aussi sur cette décision, notamment sur cette notion de victimisation secondaire. Merci beaucoup. Et tout de suite, ça va être le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir, les infos du jour que vous avez ratées. Guerre au Proche-Orient. La mort d'Ali Shadami, le chef d'état-major de l'armée iranienne, a été revendiquée ce jour par l'armée israélienne. Netanyahou a affirmé hier que cela mettrait fin au conflit, en ajoutant que son pays faisait ce qu'il avait à faire. Ces échanges de bombardements intensifs depuis 5 jours prennent contexte depuis la frappe ciblée sur des sites militaires et nucléaires iraniens, justifiée par une autodéfense préventive de la part d'Israël. De son côté, le roi Abdallah II de Jordanie évoque une dangereuse escalade des tensions sans pouvoir dire où les frontières de ce champ de bataille s'arrêteront. Et il appelle à la mobilisation de la communauté internationale. De retour en France politique, le secrétaire général du RN a assuré ce jour avoir demandé à ses députés de quitter les groupes Facebook faisant lieu de propos racistes, antisémites, homophobes ou anti-musulmans. Cela fait suite aux révélations d'appartenance au sein de ces groupes par des cadres élus du parti au début du mois par le média Les Jours. Après le signalement d'un député LFI, le vice-président du RN avait promis que ses pairs avaient ou allaient quitter ceci. Et puis l'ancien ministre François Fillon, reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, a été condamné à l'issue de 3 procès ordonnés par la Cour de cassation. Sa peine a été réduite à 4 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et une amende de 375 000 euros. Cette décision intervient après une condamnation initiale à 10 ans d'inéligibilité et un an de prison ferme en mai 2022. Des dommages et intérêts devront être versés à l'Assemblée nationale, s'élevant à plus de 100 000 euros, en raison du contrat d'assistance parlementaire qu'exerçait son épouse. Environnement maintenant, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé favorable au confinement définitif des 42 000 tonnes de déchets toxiques, dont font partie l'arsenic, l'amiante, des résidus d'incinération, etc. La possibilité de déstockage a été jugée trop risquée pour le personnel et l'environnement, représentant un danger certain, sans oublier l'exemple de l'incendie du site Stockamine et ses conséquences sur la nappe phréatique alsacienne qui alimente l'eau potable de près de 5 millions de bénéficiaires. Et enfin, pour terminer, l'économie. Donald Trump dit vouloir trouver un consensus pour apaiser la guerre commerciale qui fait rage entre l'Europe et les États-Unis au sujet des frais de douane prévus fin mai, alors reportés jusqu'au 9 juillet. Il avait alors menacé d'imposer 50% aux importations européennes. De son côté, Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen, déclarait sur le réseau X accélérer le travail en vue d'un accord juste et bon. Le locataire de la Maison Blanche s'est exprimé aujourd'hui après avoir quitté le G7. Soit nous trouvons un bon accord, soit ils paieront ce que nous leur dirons de payer.
Merci beaucoup Éléonore et tout de suite, une petite pause musicale. On écoute Daniel Alan avec le titre « Better With You ». I can't. Alors, nous venons d'écouter Daniel Alan avec le titre « Better With You ». Et nous allons écouter donc la chronique d'Anaïs qui ramène sa fraise.
La matinale de 19h.
Bonjour Francesca.
Bonjour Anaïs.
Sommes-nous obligés de jeter les queues des fraises à la poubelle ? Eh bien, je vous dirais non. Car en effet, on peut en faire quelque chose de très rafraîchissant. Sur les marchés, elles ont tapé dans l'œil des clients. Charnues et flamboyantes, les gariguettes de nos maraîchers préférés n'attendaient qu'une chose, être croquées. Mais elles peuvent tout de même se rassurer, elles n'auront pas à patienter bien longtemps. Reste à savoir comment les habiller pour notre repas de midi. Un voile de sucre, un dôme de chantilly ou encore quelques feuilles de menthe ciselées. Personnellement, j'en mange tout l'été, mais nature. Avant toute chose, il est important de les nettoyer tout en leur faisant prendre un bon bain d'eau vinaigrée pendant une vingtaine de minutes. Pour une bonne trempette, un volume de vinaigre pour 4 volumes d'eau, puis un rinçage à l'eau claire pour enfin les sécher minutieusement à l'aide d'un papier absorbant. Mais rappelons-le, il est important de ne pas équeuter avant la trempette, car comme vous le savez, elle serait engorgée d'eau et pourrait perdre toute leur saveur. Pour l'équeutage, il est alors vivement recommandé de ne pas tirer sur la queue comme un forcené, mais de les contourner avec un couteau d'office. À présent, venons-en à ce que l'on peut faire avec les queues des fraises. En effet, contrairement aux idées reçues, il y a bien d'autres choses à faire avec. Faire infuser dans un volume d'eau chaude avec un peu de menthe ou de citron, puis filtrer et laisser refroidir. Après quelques heures au frigo, on obtient une boisson rafraîchissante et légère. Quant aux adeptes de la médecine naturelle, ils seraient ravis d'apprendre que la queue des fraises soulage également les douleurs articulaires et intestinales. Comme vous l'aurez compris, nos gariguettes ont été bichonnées du lavage minutieux à l'épluchage délicat. Avant de jeter les queues, il faut y réfléchir à deux fois. Une simple infusion peut leur donner un second souffle. Et toi, Francesca, serais-tu prête à donner une seconde vie à tes fraises ? Si tu veux la ramener, bien sûr.
Bien sûr que oui. En confiture, pourquoi pas ? Non ?
Oui, en confiture ou en sirop.
Ça
peut être en sirop, tout à fait.
C'est parfait. Merci beaucoup, Anaïs.
Avec grand plaisir.
Tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, le Zoom de ce soir, c'est avec Marius. Bonsoir Marius.
Bonsoir.
Et nous sommes en compagnie donc de Mathieu Chanu.
Salut.
Salut. Mathieu, vous êtes responsable des projets culturels au CCFD Terre Solidaire et directeur du prix Photo Solidaire.
Moi, je m'occupe du prix Photo CCFD Terre Solidaire.
Alors, le prix Photo Solidaire, c'est un concours qui met à l'honneur le travail de photographes engagés aux quatre coins du monde, à la croisée de la culture, du journalisme et de l'engagement citoyen. Donc, aujourd'hui, nous allons sillonner ce chemin et vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est.
Eh bien, je vais essayer de faire au mieux.
D'accord, super.
Merci.
Eh bien, déjà, avant tout, bonjour, monsieur. D'accord. Alors, avant même de nous concentrer sur cette deuxième édition du prix photo que vous organisez actuellement, pouvez-vous nous présenter le CCFD Terre Solidaire ?
Alors, le CCFD Solidaire est une vieille organisation de solidarité internationale. Elle a été créée dans les années 60 pour lutter contre la faim dans le monde. Très rapidement, on a en fait décidé de lutter contre les causes de la faim. L'idée, ce n'est pas une organisation d'urgentistes, mais c'est une organisation qui travaille sur le développement. Et le développement avec des organisations qu'on soutient à travers le monde, c'est plus de 500 organisations dans 70 pays. Et on travaille, là on parle aujourd'hui du prix photo, mais c'est vraiment quelque chose d'annexe, mais depuis toujours, on a travaillé avec les photographes pour témoigner des situations à travers le monde.
D'accord, super. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la deuxième édition du prix Photo Terre Solidaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette distinction ?
Alors, le principe, c'est que nous avons, depuis 60 ans, on travaille avec les photographes. Les photographes sont des lanceurs d'alerte. On peut témoigner, on peut présenter au public les situations à travers le monde. Et ça, depuis très longtemps. Donc, on a, dans les années 60-70, par exemple, on a travaillé avec un photographe comme Sébastien Salgado. On a pu lancer sa carrière. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait soutenir ces photographes qui ont de plus en plus de mal à travailler pour pouvoir documenter des situations complexes à travers le monde. Et nous, comme ça, nous avons lancé le prix en 2022 pour une première édition qui a été un succès. Et là, on est dans la phase de la deuxième édition, on est dans la phase de sélection du prix photo.
D'accord, super. Et donc, l'édition 2025-2026, elle a pour thème « Voir le monde en face ». Et vous dites que c'est trois affirmations fortes. Voir le monde en face, c'est un acte d'humanité, un acte de courage et un acte d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de thème à nos auditeurs, ce choix de mots, le caractérisant et les attendus pour les candidats ?
Oui, alors, c'est en fait la question de l'engagement. Nous, ONG, pourquoi on agit ? Pourquoi on fait les choses ? La nécessité d'engager le public avec nous, de ne pas être seul. Nous, le CCF des Terres Solidaires, c'est un mouvement de 7000 bénévoles et on essaye de ramener avec nous d'autres personnes. Et la photographie est un moyen extraordinaire, en fait, pour engager. On voit la photo, on lui donne après des éléments de compréhension. On peut comprendre après des situations. Et après, l'idée derrière, c'est de pousser à l'action du public pour agir avec nous pour la solidarité internationale.
D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à nos auditeurs ce que c'est que cette notion de solidarité internationale ?
Alors, aujourd'hui, on a le monde nous explose à la gueule complètement. En fait, on voit bien que le monde est en très grande difficulté. Mais déjà, en fait, depuis très longtemps, on est une seule terre. Hein, il y a une maison commune qui est là. On dépend des populations là-bas. Nous, ici, nos comportements de consommation, par exemple, agissent sur les situations dans les pays du Sud. On est interconnectés. Donc, on ne peut pas ignorer le monde. Et donc, finalement, c'est un regard, c'est une fenêtre qu'on propose au monde. C'est la solidarité internationale, c'est ça. Et après, il y a plein d'organisations. Donc, il y a le CCFD qui travaille avec ses modes d'action sur le partenariat. Il y a des urgentistes, il y a plein de structures. Mais on ne peut pas ignorer le monde. Et là, on voit bien. Aujourd'hui, le monde est là. Donc, il faut vraiment agir.
D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, pour mentionner quelques chiffres, le prix Photo Terre Solidaire cette année, c'est 402 candidatures, 69 pays représentés et plus de 10 000 images reçues. C'est bien ça, vous confirmez ?
Oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, les photographes nous font un cadeau extraordinaire. C'est un portrait du monde qui est fait à l'instant T. C'est tous ces pays, tous ces photographes du monde entier qui participent. Donc ça, c'est quand même très fort. Et après, nous, on sélectionne. En fait, là, aujourd'hui, on est dans la partie de présélection. Il y a des nominés. On a 30 nominés qui sont de 22 nationalités différentes. C'est toujours le monde qui vient à nous, en fait. Hein. Et là, vendredi, on aura la réunion du jury. On va déterminer 3 lauréats. Et après, on va faire un prix du public. Et j'annonce, je préfère vraiment, pour les étudiants, pour les auditeurs, franchement, tout cet été, on pourra, en fait, le public pourra voter, en fait, pour son photographe préféré. Il y aura un prix du public. Et le lauréat de ce prix du public fera un reportage avec le CCFD Terre Solidaire. Tout ça sera présenté lors d'une grande exposition qui aura lieu au point éphémère du 3 au 24 octobre cette année.
Tu voulais ajouter quelque chose, Francesca ?
Alors oui, justement, le prix du public, c'est pas la seule nouveauté de cette année. En fait, c'est le prix du public qui va après, je crois, vers l'expo Révélation. Est-ce que vous pouvez justement aborder ce choix ?
Ah oui, j'ai déjà parlé de l'expo. Et donc là, tu parles de l'expo. Merci. En fait, bon, pourquoi on travaille, pourquoi on soutient les photographes ? C'est justement pour qu'ils les aident à aller à la rencontre du public. Mmh. Donc, on fait déjà cette première grande exposition qui sera l'exposition Révélation. On va événementialiser l'expo au point éphémère, c'est-à-dire qu'il y aura des rencontres toutes les semaines où on fera intervenir aussi d'autres artistes et d'autres médiums. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment la culture, en fait, qui parle d'engagement. Et comme ça, on engage le public avec nous et avec nos combats. Et après, c'est le démarrage, en fait, d'une tournée tournée qui aura lieu dans toute la France. Pour information, la première édition, on a plus de 50 expositions dans toute la France, plus de 100 000 visiteurs. Et tout ça porté par le réseau bénévole en fait, du CCFD. Ça vit dans des facs étudiantes, ça vit dans les médiathèques. On est très porté sur la démocratie culturelle et faire venir en fait, la culture à tous. Hein. Vraiment, c'est vraiment le principe d'être le plus ouvert possible.
D'accord. Et par rapport à la première édition, on a vu qu'il y a des nouveautés, comme vous l'avez dit, l'expo Révélation et le fameux prix du public. Est-ce que vous constatez notamment des améliorations par rapport à cette première émission, que ce soit par exemple sur cette couverture internationale en termes de participation pour le prix ?
Alors, la couverture internationale, on l'a eue dès la première édition.
D'accord.
Par contre, cette année, grâce en fait à notre réseau d'organisations partenaires, on a très bien diffusé dans ce cadre-là. Et on a pu voir en fait que l'Asie et le Moyen-Orient avaient très très bien répondu. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on arrive à 3 nominés qui sont indiens. Il y a des Bangladis, il y a des Birmans. Voilà. Donc, en fait, on a pu quand même augmenter en fait, l'impact à travers le monde.
Le président d'honneur cette année n'est autre que le photographe franco-brésilien Sébastien Salgado. Vous en avez parlé au début de l'interview. Ce choix était-il une évidence au vu de son parcours de vie et de ses captures photographiques ?
Bon, déjà, on peut dire, Sébastien, en fait, il est décédé, là, fin d'année. C'est un drame, en fait. Et il avait 81 ans. Sébastien, en fait, c'est un compagnon de route du CCFD. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand il est arrivé avec sa femme, comme étudiant, il a eu une bourse du CCFD à l'époque. Et il a été en relation, en amitié. Il s'est engagé avec le CCFD, avec d'autres organisations, pour lutter contre les dictatures en Amérique latine. Et quand il s'est lancé dans la photographie, ses premiers reportages, il les a faits avec nous. Et sa première histoire, c'était au Niger. Et nous, on avait utilisé une de ses photos pour une campagne qui s'appelait « La Terre est à tous ». Donc, c'est un slogan très fort. La Terre est à tous. Ça parle encore, c'était en 73. Aujourd'hui, cette histoire de la Terre est à tous, ça parle aujourd'hui, je pense. Et Sébastien, donc c'était évident que comme on lançait un prix, qu'il soit le président d'honneur. Donc il nous a conseillé pour faire le prix. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il y a eu cette histoire. Et maintenant, on garde cette mémoire.
Ça va être déjà la fin de ce Zoom.
Mais c'était génial.
Merci beaucoup Mathieu Chanu
merci.
Pour cet échange. Et surtout, merci en tout cas de porter ce regard et qui nous invite aussi à regarder autrement la vie. Merci beaucoup.
Oui, complètement.
Merci.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, une petite pause musicale. On va écouter donc Runner, Nowhere, pardon, avec Do Hot Girls Like Chords.
Like Chords.
Merci beaucoup Marius pour tout ça. D'écouter Nowhere avec le titre Do Hot Girls Like Chords. Il est 19h54 et tout de suite, c'est la chronique libre de Fabien.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Alors, tu as que des bonnes nouvelles apparemment.
Oui, tout à fait. Je vais vous dire de quoi faire un petit peu et vous occuper ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Paris, en Ile-de-France, ce week-end? C'est un très beau programme qui vous attend avec la fête de la musique et ses bons plans musicaux, la nouvelle édition de la fête des Tuileries et le retour de la Vasque Olympique. Oui, les sorties s'annoncent nombreuses en ce nouveau week-end. La Vasque Olympique, donc, et paralympique, est enfin de retour aux Tuileries. Ce sera à partir du 21 juin, donc du 22 juin pour les visiteurs, au 14 septembre 2025, de 10h à 20h30, pour admirer de nouveau ce fleuron des Jeux qui avait fait chavirer les cœurs de nombreux amoureux de sport. Elle reviendra chaque été jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. La fête des Tuileries revient dans le jardin des Tuileries le lendemain de la fête de la musique et nous attend du 22 juin au 24 août 2025. Juste après un grand concert dans les jardins qui s'annonce mémorable ce samedi 21 juin, ce sera au tour de la grande fête foraine de nous divertir. Rien ne vous empêche alors d'y faire un tour pour manger une barbe à papa, des chichis ou des gaufres pour ensuite vous offrir la vue de la grande roue. C'est au jardin des Tuileries, le métro c'est ligne 10 et la station c'est porte d'Auteuil. Et puis, si vous avez envie de célébrer la fête de la musique au rythme d'une bonne dose de rock, alors direction la salle Supersonic à Paris. Le samedi 21 juin 2025, la radio Oui FM y organise une soirée exclusive avec au programme les concerts gratuits de trois talentueux groupes, Bad Bad Bird, Dead Poets Society et Pogo Car Crash Control. C'est au Supersonic Club dans le 12e arrondissement et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site supersonic-club.fr. Le F Festival by VL revient à Paris ce samedi 21 juin à l'occasion de la fête de la musique 2025. Cette année, l'événement électro prend de nouveau ses quartiers sur le parvis de la, mairie du 15e avec un line-up qui devrait vous faire danser jusqu'à très tard. Avec plus de 15 000 personnes au rendez-vous en 2019, c'est sans surprise que VL a décidé de renouveler cet événement d'envergure avec au programme des artistes nationaux et internationaux connus et reconnus qui risquent fort de vous faire danser. Souvenez-vous, l'an dernier, Tad, Emma, B, Kimotion, Robin Todjam ou encore Radolf ont fait danser les Parisiennes et les Parisiens présents pour l'occasion sur le parvis de la mairie du 15e. C'est le samedi 21 juin 2025 de 18h à 2h sur le parvis de la mairie du 15e. On va le savoir. Et donc c'est dans le 15e et pour réserver c'est shotgun.live. Et puis cela fait déjà 100 ans que la cité universitaire de Paris a été inaugurée. Pour cet anniversaire très spécial, un beau programme a été pensé pour tous avec 100 ans de lumière, 100 rêves de lumière. Vidéo mapping, œuvres monumentales lumineuses et sonores, réalité augmentée, une véritable déambulation artistique à ciel ouvert, un parcours d'œuvres en réalité augmentée, 4 œuvres numériques en réalité augmentée dans les différents espaces du parc et bien entendu une odyssée musicale et musique du monde. C'est du 20 juin 2025 au 22 juin 2025 à la Cité Universitaire Paris 14. Et pour avoir plus d'informations, c'est le site officiel CIUP.fr. Et enfin, pour terminer, à l'occasion de ses 25 ans, l'Inter-LGBT organise pour la première fois cette année une semaine entière de fierté avant la marche au mois de juin. Et pour partir du bon pied, la course des fiertés débarque au départ de la place de la Pointe à Pantin le dimanche 22 juin 2025. Un moment festif et engagé pour rappeler que le sport, c'est pour tout le monde. Et la distance est symbolique, 6,28 km en hommage aux émeutes de Stonewall du 28 juin 1969. Mais pour les grands sportifs, vous pouvez courir le double, soit 12,56 km. Pour participer, c'est 10 à 20 euros selon votre budget. Pour plus d'infos, vous allez sur courseinterlgbt.org.
Merci beaucoup Fabien. Et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. Merci Léonore pour l'interview et le Flash Info. Anaïs pour la chronique actu. Merci Marius pour le Zoom et pour la coordination de cette émission. Merci Fabien pour la chronique libre et Simon pour la réalisation. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts. La matinale-RCP sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9 FM et à demain.